Dieu a commencé une œuvre bonne en nous. Donc je redis ce verset. Hein, Dieu a commencé une œuvre bonne en nous. Et tout ce que nous vivons en tant que chrétiens est réponse à l'œuvre bonne. La prière, prier, c'est répondre à Dieu. On dit prier, c'est parler à Dieu, oui. Mais en fait, qui prie? Quelqu'un qui a déjà eu quelques échos de Dieu. Prier, c'est répondre. Croire, c'est répondre. Servir Dieu, c'est répondre à sa bonté. Aimer les frères et sœurs, c'est répondre à sa grâce. Donc, toute notre marche et fidèlement persévérer à travers les douleurs, c'est répondre à sa fidélité. D'accord? Donc, aujourd'hui, alors, je m'en excuse presque. Je n'ai pas un texte. Je propose pas une prédication textuelle, mais un certain nombre de versets. J'ai à cœur de parler de cinq mots que l'Église primitive a maintenu non. En partie du moins, non traduit, c'est-à-dire maintenu dans les langues originales. Alors, il n'y a pas grand mystère. Amen. Alléluia. Abba. Hosanna. Maranatha. Ces cinq mots. Alors, qui a donné l'exemple de les maintenir non traduits? En premier, bien les auteurs du Nouveau Testament. Par exemple, quand nous lisons en français Jésus qui dit « En vérité, je vous le dis », dans l'évangile de Jean, c'est doublé. « en vérité, je vous le dis ». Dans le Nouveau Testament original, grec, nous lisons « Amen, amen, je vous le dis ». Et donc, le modèle, il vient de là. Et le fait de les maintenir, que ces mots soient maintenus, pas à chaque emploi, mais souvent pour Amen, Alléluia, moins souvent pour les autres, mais que ces mots soient maintenus, non traduits, n'a pas premièrement un objectif théologique. Et si vous voulez, la Bible ne soutient pas l'idée de langue sacrée. Même l'hébreu n'est pas une langue sacrée. Mais l'objectif, donc ce n'est pas un objectif de doctrine, de précision doctrinale, c'est un objectif de piété. C'est-à-dire la piété, c'est bien honorer Dieu. L'objectif, c'est le rapport à Dieu. Autrement dit, ces cinq mots sont maintenus, non traduits, pour sortir un peu du texte. Vous savez, un peu comme les pépites de chocolat dans certains, les cookies, ou enfin peu importe, ou des cakes, où il y a des fruits confits, eh bien tout de suite, quand on mange ça, ça apparaît. Bon, donc ces mots sont là pour apparaître et pour encourager notre rapport à Dieu, en l'occurrence, nos réponses à Dieu. Et on va bien sûr dire un petit peu le sens de chaque mot, mais surtout voir un ou deux versets pour chacun, parce que ce sont évidemment les versets qui disent le sens, mais surtout qui nous tirent, qui nous font répondre. Donc c'est une aide à la réponse. Rappelons-nous, hein. Amen, c'est répondre à Dieu. Alléluia, c'est répondre à Dieu. Abba, c'est répondre à Dieu. Hosanna, c'est répondre à Dieu, Sauveur. Et Maranatha, c'est répondre à Jésus qui dit « Je viens ». C'est répondre. Alors, Amen. C'est une confession. Donc j'ai déjà dit Jésus, hein, qui le répète. Donc le mot est beaucoup employé dans la Bible, beaucoup, plus de 140 fois. Donc en comptant le Nouveau Testament original, hein, donc dans la bouche de Jésus aussi, plus de 80 fois dans la bouche de Jésus. Le mot est de la même famille que le mot vérité. Mais c'est plus que de la même famille, hein, c'est quasi, voilà, très très proche du mot vérité. Amen. Quand on dit Amen, on dit c'est vérité. Et comme en hébreu, le mot vérité, si vous voulez, il y a un mot hébreu qui signifie à la fois vérité et fidélité. Parce que la vérité dans la Bible, c'est pas premièrement l'exactitude technique, alors c'est inclus, mais c'est la fidélité de Dieu. Le Dieu vivant et vrai, c'est fidèle à lui-même. Et donc quand on dit Amen, on répond au Dieu fidèle. Et on dit ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, ce qui lui est demandé, c'est vérité. Alors tout de suite, nous réalisons qu'il y a là quelque chose de contraignant. C'est-à-dire dire Amen, contraint à prendre conscience que ce qui vient d'être prié ou lu ou prêché est vérité. Et contraignant aussi dans le sens où si ce n'est pas vérité, au sens biblique, je ne peux pas dire Amen. Donc, une anecdote, je ne sais pas si... Allez, je vais la dire. Donc, j'ai été sauvé grâce à l'âge de 17 ans et j'ai commencé à lire la Bible. Et un jour, j'ai lu donc dans Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Bon, je ne vois pas là-haut. Voici ce que dit, donc écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, avec A majuscule. Et donc, le début de chacune des sept lettres-là, c'est Jésus qui parle. Donc Jésus est en train de dire à ceux qui vont entendre et puis lire, est en train de dire, je suis l'Amen. Et moi, j'ai été très touché par ça. Je me suis dit, mais Amen, c'est le nom du Seigneur. Donc, je ne peux pas dire Amen n'importe comment, n'importe où. Si vous voulez, ne pas prendre en vain le nom de Dieu. Et voilà, et ça a commencé à bien s'imprimer. Et peu après, j'étais dans une église. Et donc la réunion était finie, puis les annonces, ça, puis le pasteur a dit, bon, on va aller là-bas, on va pique-niquer, on va faire, etc., un peu comme tout à l'heure, là. Et puis, il a dit, vous pouvez aussi amener des boules de pétanque, après on va se détendre, on va jouer. Et quand il a dit, vous pouvez amener des boules de pétanque, on va jouer, beaucoup de gens ont dit, Amen! Et là, moi qui venais d'être impacté par Apocalypse 3:14, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait réaliser l'incroyable contraste entre le sens biblique du mot Amen et un usage profane du mot Amen. Parce qu'en l'occurrence, bien que ce soit des chrétiens qui l'aient prononcé, l'usage était profane. Parce qu'amener des boules, on ne peut pas dire après, c'est vérité. Vérité de Dieu. Voilà. C'est bien, c'est une bonne idée, c'est agréable, ça on peut dire. Voilà. Donc bien sûr, Amen, donc ça ne signifie pas du tout, c'est fini, on peut manger. Ça. Est-ce que ça signifie, ainsi soit-il, dans la Bible? Quelquefois. Rarement. Et, Jérémie 28, dans 1 Roi 1, quand David dit les paroles qu'il faudra prononcer pour l'intronisation de Salomon, eh bien, le chef qui est responsable de ça, il dit amen aux paroles, mais les paroles qui viennent de Dieu, que Dieu avait données à David. Voilà. Et, mais, donc, c'est vérité, mais il disait là, dans le contexte, c'est amen, que cela s'accomplisse pour Salomon. Voilà. Donc, ainsi soit-il, ce n'est pas faux, mais c'est un usage rare. L'usage courant de amen, le sens est c'est vérité. De Corinthiens 1, verset 20, encore un verset pour le mot amen. Aussi qui me, alors celui-là, je n'avais pas 17 ans, j'avais 70, donc c'est récent. C'est très récent, ces dernières semaines, où ça m'a frappé. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 20. Dans certaines prières où on fait allusion à ce verset tout à l'heure, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui, en Christ. C'est donc aussi par lui, par Christ, par son esprit, que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Donc là, il n'y a pas la majuscule, hein. Là, c'est l'amen qui suit la prière, la lecture, la proclamation, voilà. Donc, toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui, évidemment, c'est en Christ que nous avons la garantie. Et donc, c'est aussi en Christ que nous disons amen. C'est vérité. Ben oui, qui plus que Christ atteste que ce que Dieu est, dit, fait, c'est vérité. Donc, il n'y a aucune surprise, si vous voulez, dans ce verset. Mais la surprise, pour moi, du moins ces dernières semaines, a été les tout derniers mots. Nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Donc, quand je dis amen, je parle à qui? Moi, le premier, j'ai beaucoup dit amen en parlant à celui qui vient de prier ou de prêcher ou d'encourager pour dire oui, c'est vrai, amen. Un peu avec l'idée, je suis d'accord. Mais en vérité, ce n'est pas de mon accord qu'il a besoin. Il a juste besoin d'entendre confesser à Dieu que ce qui vient d'être dit est vrai. Amen, c'est une confession. Confession de la vérité. C'est trop beau. Pour sa gloire. Dieu est glorifié quand quelque chose de lui, de sa parole, de son œuvre est prononcé et confessé par d'autres et comme attesté avec une adhésion, avec foi. Et on peut dire amen pas seulement à des paroles, on peut dire amen à des actes. Si je sais que, alors quand je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas bien, donc ne vous inquiétez pas. Si je sais que toi et toi vous êtes en brouille et que pendant la réunion, sans faire exprès, je vois que l'un des deux est en train de se lever et d'aller vers l'autre et qu'ils sont là, ils se parlent et que je comprends qu'ils sont en train de se repentir et de se pardonner, eh bien je peux dire amen. Je n'entends pas un mot à ce qui est dit, mais je dis amen à la démarche, parce que cette démarche, elle est vérité. Elle est produite par l'esprit de vérité. Voilà. Donc c'est le mot le plus employé. C'est aussi dans nos vies chrétiennes le mot que nous employons le plus, le mot non traduit parmi les cinq pépites là, que nous utilisons le plus. Et nous faisons bien. Alléluia! En vérité, l'amen introduit l'alléluia, forcément. Et Dieu agit, c'est vérité, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Louer l'éternel. Donc, alléluia signifie louer l'éternel. Donc là, j'ai un petit mot aux parents de Elia. Ya, comme dans alléluia, ya, c'est une contraction de Yahvé. Donc, en français, l'éternel. Donc, en français, fondamentalement, je suis. Dieu dit « je suis ». et donc possiblement prononcé Yahvé en hébreu, il n'y a pas de certitude. Voilà, donc Alléluia, ça veut dire louer l'Éternel. Et donc Elia, ça veut dire Yahvé est mon Dieu. C'est une exhortation. Alors là, quand je crie, enfin, ou que je murmure, les deux valent. Alléluia, là ce n'est pas à Dieu que je parle. Pourtant, ça répond à Dieu. Mais je parle aux autres. Et je dis, louez l'Éternel. C'est une exhortation. Et ce n'est pas une exhortation uniquement au chant. La louange n'est pas que le chant. Le chant, je dirais même, c'est comme la pointe d'un iceberg. On voit ce qu'il y a en haut et puis en dessous, il y a en général un volume courant, enfin en moyenne 5 fois supérieur. Et la louange, eh bien, quand c'est les chants ensemble, et a fortiori s'il y a des instruments, et a fortiori s'il y a du talent, mais ça se voit bien, ça se goûte, et on est heureux de participer, bien entendu. Mais la louange, c'est louer l'Éternel, c'est tout le temps. Hein. Il y a des psaumes où, d'un bout à l'autre, sauf la dernière phrase, pardon, je ne parle plus dedans maintenant, ça. Où d'un bout à l'autre, l'auteur du psaume souffre et se plaint. Et se plaint à Dieu, et réclame. Et il finit, et tu te dis, mais bon, d'accord, mais si tu veux te plaindre, à qui il faut se plaindre? À celui qui est fidèle. Et puis, dernier mot du psaume, je bénirai sans cesse l'Éternel. Voilà, la louange, elle est aussi dans tous les aspects. Alors, louer l'Éternel. Si on prend par exemple les psaumes 111 à 117, alors, dans nos traductions, alors est-ce que, ça je n'ai pas demandé à ce qu'on les affiche, hein. Il y a donc, moi j'utilise la colombe là, dans psaume 111, ça commence, premier mot, louer l'Éternel. Dernier mot, ah non, pas là. Il y en a où c'est et le premier et le dernier. Alors, dans la Bible du rabbinat, une traduction faite faite dans le judaïsme, là, ils ont maintenu. Traduction en français, donc vous avez la Bible, enfin l'Ancien Testament en l'occurrence, en français. Et là, vous allez psaume 111 et vous ne lisez pas « Louez l'Éternel », vous lisez « Alléluia ». Etc., etc. Dans la traduction, là, ce qu'on appelle la Bible de Jérusalem, qui, contrairement à son nom, est une traduction catholique, mais parce que cette école, l'école de théologie qui a fait ce travail, est à Jérusalem, une école catholique. Donc, pareil, c'est maintenu, Alléluia. Dans la version Darby, ça dépend des éditions. Les éditions plus anciennes, oui. Hein? Ah oui, loué, ya. Louer, ou alors c'est ça, voilà, louer, ya. Yeah. Donc là, c'est à demi traduit. Alors, donc voilà, 111, je les passe pas, on va gagner un petit peu de temps, et je vais juste lire le 117. On va le lire entier, le psaume 117. Alléluia, vous, toutes les nations, glorifiez-le, vous, tous les peuples, car sa bienveillance pour nous est efficace et la vérité de l'Éternel dure à toujours. Alléluia. Donc dans l'Ancien Testament, le mot apparaît aussi beaucoup, enfin oui, non, moins que... Oui. Plus de 40 fois, dans le Nouveau Testament, et on va y aller, Apocalypse de nouveau, 19. Verset 1 à 6. Donc nous allons lire les quatre seuls mention du mot Alléluia, non traduit, dans le Nouveau Testament. Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia !» Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite, et il a vengé le sang de ses serviteurs, le réclamant de sa main, de la main de la grande prostituée, la grande Babylone, voilà, l'ultime persécution. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia ! Et sa fumée monte au siècle des siècles, la fumée du feu de jugement. Ici, ça cite Ésaïe 43. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia ». Donc ces deux mots qui se suivent se retrouvent aussi à la fin de certains psaumes, en disant « Amen, c'est vérité, Alléluia ». Et maintenant, une voix sortit du trône. Oula, l'exhortation à louer Dieu, là, ce n'est pas des frères et sœurs qui la donnent. Une voix, c'est Dieu, une voix sortie du trône. Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de fort tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. Alors de nouveau, le mot « Alléluia », combien il est chargé de vérité, et donc le mot « Alléluia », il porte le nom de l'Éternel, Yahvé. C'est impressionnant. Donc, bien entendu, il signifie beaucoup plus que c'est beau, c'est magnifique, voilà. Et ça signifie pas youpi, voyez. Ça signifie. Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'un usage profane du mot amen, mais alors un usage profane, voire blasphématoire du mot alléluia, on n'est pas privé, hein. Malheureusement, avec la musique de Handel, enfin, elle est détournée. Parce que Handel a écrit sa composition musicale, Le Messie, dont le final s'intitule Alléluia. Lui, il l'a écrit vraiment pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, la musique est entrée dans le domaine commun, et donc cette musique, Alléluia, Alléluia, elle est utilisée pour tout et n'importe quoi. Donc, pourquoi je relève ça? Je n'ai pas plaisir à relever qu'il y a des choses profanes et même blasphématoires. L'utilité de le relever, c'est le contraste. C'est le contraste. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Fais du mot Alléluia un usage biblique. Voilà. Donc, exhortation. Alléluia, exhortation. Notre louange a besoin d'être soutenue, poussée, tirée, encouragée, nourrie. Parce qu'elle répond à Dieu. Abba, Abba. Marc 14, versets 2 et 3, je crois. Ah, oui, pardon. Oui, 34, 36, merci. Bon, le seul qui ne suit pas, c'est moi. Il faut le faire quand même. Hein. Abba.
Ce qui est le plus rapide, de mettre mes lunettes pour lire là-haut, de chercher le texte pour lire là.
Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc Jésus est dans le jardin de Gethsémané et c'est là où il va, à partir de là, qu'il endosse nos péchés. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Et il disait, « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Abba, le mot n'apparaît que trois fois dans le Nouveau Testament, et c'est ici le premier emploi. Donc, le mot apparaît dans le texte sur les lèvres de notre Seigneur, et pas à n'importe quel moment. À ce moment terrible qui est le sommet de sa souffrance. Le sommet de la souffrance de Jésus n'est pas sur la croix, mais il est là. C'est là qu'il transpire des grumeaux de sang. C'est là qu'il meurt d'angoisse. Pas parce qu'il va mourir physiquement, pas parce qu'il va souffrir, pas premièrement pour ça en tout cas, mais parce qu'il va endosser le péché. Lui, donc péché, ça veut dire contre Dieu. Et lui qui n'a jamais été contre Dieu. Alors, il ne va pas être en personne contre Dieu, mais il va endosser comme par identification avec nous, c'est une position semblable. Donc là, il y a la souffrance extrême. Et là, alors que dans les évangiles, Jésus parle du Père et emploie le mot Père, pas loin de 200 fois. Et comme c'était sa langue, il parlait l'araméen, très proche de l'hébreu, mais donc les siècles étaient passés, les choses avaient évolué. Il parlait araméen, donc chaque fois qu'on lit dans les évangiles le Père qui m'a envoyé, ben Jésus il dit Abba. Mais dans le Nouveau Testament grec, vous n'avez pas Abba. La première fois où où le Saint-Esprit pousse Pierre qui parle et Marc qui écrit, c'est comme ça qu'on a Marc, le Saint-Esprit pousse Pierre à dire là, à pas dire comme les autres fois juste Père, mais à dire Abba. Donc à faire ressortir le mot. Et Abba, donc là c'est le contexte de l'apparition du mot non traduit nous dit son sens, nous dit son poids. C'est, il veut dire Père. Et donc le texte, les trois fois où il apparaît, ici, Romains 8 et Galates 4, qu'on lira tout à l'heure, eh bien le texte dit « Abba, virgule, Père, virgule », et puis la phrase continue. Et pourquoi il écrit « Père » derrière? Ben, ça veut simplement dire, vous qui ne connaissez pas l'araméen, je vous donne tout de suite la traduction. Voilà, c'est pour ça qu'on lit toujours « Abba, virgule, Père ». Voilà. Voyez que ce n'est pas, c'est le mot normal pour dire avec un profond respect Père et avec un cœur filial Père et avec une attente maximum envers Dieu le Père pour dire Père. Et là Jésus dit Abba. Donc évidemment le mot ne signifie pas papounet. Pas du tout, le mot n'est pas un diminutif réservé aux tout petits enfants qui gazouillent. Ce n'est pas, à Gethsémané, ce n'est pas un moment de gazouillis. C'est la prière de notre Sauveur. Et donc le mot « Abba » est dit en prière. Maintenant Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs. Et cet esprit crie Abba, c'est-à-dire Père. Et ici, de nouveau, donc première apparition du mot, c'est Jésus qui le prononce, en priant. Autre apparition du mot, c'est l'Esprit qui le prononce, mais dans nos cœurs. Et dans Romains 8, c'est pareil que Galates 4. Hein, vous n'avez pas reçu un esprit de crainte, de peur, pour être à nouveau dans la peur, mais l'esprit d'adoption par lequel nous disons « Abba, Père », c'est par l'esprit. Donc en fait, dans les trois fois où le mot apparaît, « Abba » est dit en prière. Et il n'est pas employé autrement que en prière. Voyez le point sur lequel nous avons commencé. Toute la vie chrétienne est réponse à Dieu. Rapport à Dieu. Rapport à Dieu. Amen. Que dans le cœur d'anciens aliénés et ennemis de Dieu par nos fautes, que dans le cœur de ces gens-là, une fois appelés, justifiés, rachetés, adoptés, que l'Esprit de Dieu et de Jésus fasse prononcer ce mot « Abba » que Jésus lui-même seul prononce au départ. Ça en dit long. Si vous voulez, ça souligne en rouge le bout de verset qui me vient là, un si grand salut. Un si grand salut. Il faut que le salut soit grand pour que d'un aliéné ennemi de Dieu, il fasse sortir, il fasse monter la prière. Abba. Ensuite, on ira plus vite. Une petite remarque, allez. C'est une remarque, c'est une donnée des textes. Dans l'Apocalypse, bien sûr, Dieu est aussi appelé Père. Mais chaque fois qu'il est appelé Père dans l'Apocalypse, ce n'est pas énorme le nombre. Hein, je ne suis pas sûr d'avoir noté tous les versets d'ailleurs, mais... entre 5 et 10 fois, pas plus. Ce n'est pas énorme. Mais chaque fois que dans le texte de l'Apocalypse, Dieu est qualifié de Père, il est qualifié précisément de Père de Jésus-Christ. Ce qui fait que dans le dernier livre de la Bible, Dieu n'est plus qualifié de Père des élus. Il le reste, hein. Ne nous inquiétons pas, il le reste. Mais la tonalité dernière qui est donnée, c'est « Il est le Père de Jésus-Christ ». Mais si Jésus est enlevé de l'affaire, Jésus, imaginons, il n'est pas venu, il ne nous a pas rachetés, il ne nous a pas sauvés, est-ce que Dieu est notre Père ? C'est en lui qu'il est notre Père. En lui, vous avez été adopté. En Christ, vous êtes. L'adoption n'est pas directe. Ce n'est pas Dieu adopte Andrew. Dieu joint Andrew à son fils unique. Et dans le fils, il est adopté. En vérité, j'ai partiellement tort d'en parler au singulier. Parce que l'adoption est toujours formulée dans la Bible au pluriel. C'est une adoption collective. Ce qui en dit long sur la nécessité d'amour et de patience fraternelle. Hosanna, psaume 118, versets 25 et 26. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Je m'arrête là. Alors, donc ça a été écrit en hébreu, hébreu ancien, hein, à peu près un millénaire avant Jésus. Et donc les mots ne sont pas dans le même ordre. Le premier mot c'est Hoshéanna. Oshiana. Et donc, Oshi, c'est sauve, sauver, sauve. Et Anna, c'est la grâce. Si vous voulez, oser, c'est, ça veut dire il sauve. Voilà. Et donc, il y a ce mot, Oshiana, qui contracte en hébreu le mot, le verbe sauver et le mot grâce. Et déjà, alors là, le fait de ne pas le traduire dans la langue dans laquelle, hein, en grec en l'occurrence à l'époque, en français, etc., le fait de ne pas le traduire, ça remonte, c'est très ancien, c'est à peu près un siècle et demi avant Jésus, quand des savants juifs ont traduit ce qu'on appellera après l'Ancien Testament en grec, la traduction qu'on appelle des Septante. Et là, ils n'ont pas traduit, si vous voulez, ils n'ont pas écrit en grec de grâce éternelle, accorde le salut, ils ont écrit Hosanna. Donc, ils n'ont pas maintenu Oshiana, mais ils l'ont légèrement hellénisé, hein, gréquifié pour faire. voilà. Alors, donc, je ne sais pas s'il faut considérer cette partie du psaume 118 comme la première mention du mot Hosanna. En toute rigueur, non. Mais voilà, il vient de là. Le mot vient de là. Et il est employé 6 fois dans le Nouveau Testament. Et donc là, je n'ai pas demandé à ce qu'on affiche le verset. C'est à l'épisode qu'on appelle des rameaux. Quand Jésus envoie 2 disciples pour amener un ânon, ils le font asseoir dessus, ils mettent les vêtements, puis la foule est là. Et c'est impressionnant ce qui se passe. C'est comme une anticipation sur après sa résurrection. Et il l'acclame et il crie quoi ? Il crie « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Donc, référence au psaume 118, clairement. Et donc, dans Matthieu 21, par exemple, il s'est répété 2 fois. On l'a aussi dans Marc 11, on l'a dans Jean chapitre 12, 2 fois, voilà. Donc, 6 fois, on a ce mot, ce cri, Hosanna. Et alors là, il y a quelque chose de plus à dire avec ce mot, c'est qu'au départ, clairement, et cette traduction-là, la traduction du semeur, sur ce point, elle est particulièrement utile, c'est une supplique, Hosanna. C'est un cri, un appel au secours, un cri de supplication, de grâce, sauve. C'est une supplique qui, et dans le psaume 118, c'est une supplique. Et, hein, mettons 150 ans avant Jésus, on va dire, allez, 8 siècles après, c'est devenu un cri d'allégresse. Il y a quelque chose de remarquable là-dedans. Il y a quelque chose de remarquable. On pourrait dire que ça résume le parcours de l'homme perdu puis sauvé. Son cri premier doit être de grâce sauve. Et son cri dernier est « Hosanna ! Par grâce tu as sauvé. » Ou « Le salut est grâce. » Ou « La grâce sauve. » Comme vous voulez. Mais articuler ces deux mots. Alors on le chante par-ci, par-là. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et donc dans Matthieu 21, il rajoute Hosanna dans les lieux très hauts. Voilà, Hosanna. Donc c'est une confession de nouveau. Par grâce, il a sauvé. Et premièrement, c'est une prière. De grâce, sauve. C'est trop beau, hein. Alors il faut être reconnaissant que ces 5 mots aient été maintenus comme ça, parce que ça nous fait comme des rappels. On fait pas attention, on dit oh, un morceau de fruit confit. Voilà. Évidemment, salut et grâce sont un thème récurrent à travers les Écritures du début à la fin. Maranatha. Alors ça va être d'autant plus court que le mot. Alors, 1 Corinthiens 16, verset 22, le mot apparaît une fois. Alors c'est aussi de l'araméen, comme Abba. Bon, Hosanna, c'est de l'hébreu hellénisé. C'est de l'araméen. Et c'est une prière. Maranatha, c'est une prière. Et donc ça signifie « Notre Seigneur vient ». Éventuellement, en distinguant entre les syllabes de Maranatha, est-ce qu'on distingue après Marana et on sépare Ta, ou on distingue après Maran et on sépare Atta, ça peut signifier « le Seigneur vient ». À ce moment-là, une confession et non plus une demande. Mais je pense qu'il ne faut pas finasser Maranatha, notre Seigneur, virgule, vient. Et donc, évidemment, c'est la réponse à l'attestation ultime du Seigneur Jésus dans l'avant-dernier verset de la Bible. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Apocalypse 22, verset 20 à peu près, 19-20 par là. Et la suite, c'est « Amen ». Viens Seigneur Jésus. Mais là, c'est traduit. Si vous voulez, le grec ne met pas Maranatha. Mais dans 1 Corinthiens 16, Paul. Hein? Voilà, j'ai quasiment fini. Paul, alors pareil, le Saint-Esprit qui pousse Paul à écrire et qui, voilà, lui fait écrire. Maranatha, et maintient le mot comme ça. Et le début, alors on peut dire pourquoi, sur quoi notre attention doit être attirée. Et le début du verset, à première lecture, ne fait pas plaisir. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, littéralement, qu'il soit anathème. Et anathème. Et donc, pardon, je lis le verset entier, qui soit anathème, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Donc, de nouveau, énorme contraste entre les premiers qui sont mentionnés dans le verset, X, hein, quiconque, mais là, ce n'est pas le bon quiconque, hein, n'aime pas le Seigneur Jésus. Et contraste avec Paul et ses lecteurs et nous aujourd'hui, viens Seigneur Jésus, ou Seigneur Jésus, viens. Pardon, dans Maranatha, ça ne précise pas Jésus. Notre Seigneur vient, excusez-moi. Notre Seigneur vient. Alors, contraste. Les contrastes sont enseignants et nous enseignent. Alors, que signifie anathème ? Alors d'ailleurs, ça c'est un mot, c'est une transcription du mot grec. Ça signifie maudit. Alors Paul, il est spécialement de mauvaise humeur et fâché pour dire si quelqu'un n'aime pas le Seigneur qu'il soit maudit. Non, 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 c'est le Saint-Esprit qui le fait écrire. Qui dans la Bible a le pouvoir de maudire ? Au sens fort du mot, au sens légitime du mot, Dieu est Dieu seul. Et pour ce qui est des humains, la malédiction sans cause n'aboutit pas. Hein? Voilà. Le contraste est mot. Alors, et que signifie maudit ? Je l'ai peut-être déjà dit, mais il faut le répéter. Voilà, maudit, ça signifie pas il va avoir une malchance de tous les diables. Ça, c'est pas la malédiction des Kennedy, hein. il est mort, le neveu est mort, la grand-mère, c'est pas ça. Maudit, dans la Bible, autant à partir dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, dans les deux vocabulaires, c'est un décret de condamnation définitive. De la part de Dieu. Un décret, comme un gouvernement qui prend un décret. C'est un décret de condamnation. Donc en quelque sorte, quand Paul écrit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus, qu'il soit maudit, qu'il soit condamné par Dieu, il ne fait que reformuler ce que Jésus dit juste après Jean 3, 16, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Et il n'est pas bon de prêcher l'évangile en passant tout le temps sous silence la condamnation. Il n'est pas bon parce que Jésus n'a pas parlé comme ça. Hein, Jean 3,16 et 17 et Jean 3,18 tout de suite. Et juste avant aussi, avant Jean. Vous voyez, Dieu ne parle pas comme ça, Jésus n'a pas parlé comme ça, les apôtres n'ont pas parlé comme ça, le texte biblique ne parle pas comme ça. Ne parle pas de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, en passant sous silence du 1er janvier au 31 décembre, la perdition et la condamnation. À la longue, on trahit l'évangile. Parce que à la longue, d'un 1er janvier au 31 décembre, d'année en année, de décennie en décennie, qu'est-ce qui s'imprime dans la pensée des gens qui n'entendent que bonté et salut? Mais que Dieu est trop bon pour condamner quiconque. Et en plus, Dieu est amour, c'est vous qui le dites. Voilà. Bon, ça s'appelle... Cette rigueur dont je rappelle la nécessité se nomme être fidèle à celui qui est fidèle et parler comme il parle. Voilà, je conclue en rappelant un verset où Paul dit que Dieu lui prépare la récompense et il dit en ce jour-là, au jour de Christ justement, il me donnera la couronne et il dit non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Autrement dit, tous ceux dans le cœur desquels le Saint-Esprit fait monter la prière, Maranatha. Voilà, finalement, toute la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Abba. Hosanna. Maranatha. Ce qui est de Dieu est vérité. Louez-le, il est le Père, il sauve par grâce et le Seigneur vient. Amen. Je pense qu'on peut dire Amen là. J'espère que je n'ai rien prononcé qui ne soit pas vrai.